Chapitre 19 Pureté sociale. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'homme est déchu, et l'œuvre de sa vie, peu importe que celle-ci soit longue ou courte, doit être de recouvrer par Christ ce qu'il a perdu par le péché, l'image de Dieu. Cette œuvre exige une transformation complète de l'âme, du corps et de l'esprit. Par un effet de sa miséricorde, Dieu envoie à l'homme des rayons de lumière pour lui montrer sa véritable position. Mais s'il ne veut pas marcher dans la lumière, il devient évident qu'il prend plaisir aux ténèbres. Il évite la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. L'état du monde offre à nos yeux un tableau bien propre à nous faire frémir. L'immoralité règne partout. La sensualité est le péché mignon de nos jours. Jamais le vice n'a levé sa hideuse tête avec autant de hardiesse que maintenant. Sa puissance et le nombre de ses partisans découragent presque les partisans de la vertu. L'homme qui ne possédera pas quelque chose de plus que la force humaine pour résister au courant du mal sera vaincu et entraîné à la perdition. Mais ce n'est pas en un seul instant que l'on descend des hauteurs sereines de la pureté et de la sainteté jusque dans les bas-fonds de la corruption et du crime. Il faut du temps à des créatures faites à l'image de Dieu pour en arriver à reproduire les attributs de Satan. C'est par la contemplation que nous sommes changés. Bien qu'il ait été fait à l'image de son Créateur, l'homme peut s'accoutumer au mal à tel point que le péché qui lui inspirait d'abord le plus profond dégoût lui deviendra désirable. Dès l'instant où il cesse de veiller et de prier, la citadelle, le cœur, n'est plus gardée, et il devient le jouet du péché et du crime. Il faut être constamment en guerre contre l'esprit charnel. Il faut aussi s'assurer le concours de la grâce souveraine de Dieu dont l'influence ennoblissante élèvera l'esprit et l'accoutumera à la méditation des thèmes purs et saints. Une grande proportion des êtres humains que l'on rencontre de tous côtés sont en malédiction au monde. Ils ne vivent que pour eux-mêmes, et sont adonnés, âme et corps, à la dissolution et à la corruption. Quelle terrible censure que sévit pour les mères qui ont fléchi le genou devant l'autel de la mode. Qui ont négligé de cultiver leur esprit et de tailler leur caractère sur le divin modèle, et qui ont ainsi négligé de se préparer en vue de la mission sacrée qui leur a été confiée, d'élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. Il est presque impossible de faire comprendre aux âmes endormies l'empire que Satan exerce sur les esprits. Elles ne se rendent pas non plus injustes compte de la corruption qui règne tout autour d'elles. Satan les a aveuglées et plongées dans une sécurité charnelle. L'iniquité abonde, et elle ne reste pas dans le seul camp des incrédules et des moqueurs, plusieurs chrétiens de profession en sont aussi coupables. Leur amour s'est refroidi. Hélas! Combien peu ils sont nombreux, même parmi les chrétiens de profession, ceux qui font le bien parce qu'il est bien, et qui évitent le mal, même lorsque l'opinion publique ne les y oblige pas. Le sage Salomon lui-même fut vaincu dans la bataille entre la corruption intérieure et les tentations extérieures. Il avait commencé son règne sous des auspices favorables. Il était chéri de Dieu. Et, s'il était resté vertueux, il eût pu achever ses jours au sein de la prospérité et des honneurs. Mais il se laissa entraîner à la licence. Dans sa jeunesse, il avait mis en Dieu sa confiance et s'était attendu à lui pour la sagesse. Et Dieu lui accorda une force et une sagesse qui étaient pour le monde un objet d'étonnement. Sa renommée se répandit dans tous les pays. Mais arrivé au déclin de l'âge, il abandonna les principes et se plaça ainsi sur le terrain de l'ennemi. Il s'est séparé de Dieu, la base et la source de sa force. Il a perdu sa fermeté de caractère et a vacillé, comme un jeune homme sans expérience, entre le bien et le mal. L'amour des femmes était son grand péché. Cette passion, qu'il ne s'attacha pas à contrôler, parvenue à l'âge mûr, lui fut en piège. Il prit un grand nombre de femmes, dont quelques-unes étaient filles de rois païens. Et elles l'entraînèrent à l'idolâtrie. Dans sa jeunesse, la sagesse lui avait été plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'or d'Ophir. Mais, hélas! Les passions charnelles remportèrent la victoire. Il fut séduit et entraîné à l'abîme par des femmes. Quel avertissement! Quelle démonstration de la nécessité de posséder jusqu'à la fin la puissance de Dieu! Il est imprudent de se permettre le moindre écart de la plus stricte intégrité. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Chrétien de profession, la seule lumière qui jaillit de ce passage suffirait pour vous laisser sans excuse lorsque vous vous laissez diriger par vos passions charnelles. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus enténébré, et elle peut être comprise par tous ceux qui désirent la comprendre. Malgré cela, Dieu envoie encore des docteurs qui montrent encore à son peuple, dans les termes les plus clairs, quelles sont les portions des Écritures qu'il foule aux pieds. Et encore, la lumière est souvent repoussée. Les esclaves de leur propre convoitise continuent à prendre plaisir à la justice, malgré les jugements que Dieu dénonce contre ceux qui s'adonnent à de telles choses. Certaines personnes auront assez de franchise pour reconnaître que c'est mal de suivre leurs inclinations charnelles, mais elles s'excuseront en disant qu'elles ne peuvent pas vaincre leur passion. Il faut reconnaître qu'un tel aveu est souverainement triste dans la bouche d'un chrétien. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi cette faiblesse? Parce qu'on s'est soumis si longtemps à ces appétits dépravés qu'on n'a plus aucun empire sur soi-même, parce que les passions les plus basses de la nature ont pris les rênes du gouvernement, et que le sens moral qui devrait être la puissance dirigeante s'en est allé. La sensualité a détruit les aspirations à la sainteté, et desséché la spiritualité. L'âme est réduite au plus abject esclavage. Les liens sacrés du mariage sont souvent un voile dont on se sert pour recouvrir les péchés les plus odieux. Des hommes et des femmes professant la piété lâchent le frein à leur passion, et se mettent ainsi au niveau des animaux. Les facultés que Dieu leur a confiées pour qu'ils les conservent saintes et nobles, ils en abusent honteusement. Néanmoins, ils prétendent ne pas faire de mal. La santé et une avis sont sacrifiés sur l'autel de la convoitise. Les facultés les plus élevées et les plus nobles sont placées sous le joug avilissant de la sensualité. Ceux qui pêchent ainsi peuvent ne pas prévoir les conséquences de leur conduite. S'ils pouvaient se rendre compte de la somme de souffrances qu'ils attirent sur leur tête et sur celle de leurs enfants, ils en seraient alarmés, et quelques-uns, au moins, se détourneraient de la voie qui attire sur eux des maux aussi effrayants. L'existence de plusieurs est rendue si misérable que, pour eux, la mort serait préférable à la vie. Et plusieurs meurent prématurément, ayant honteusement sacrifié leur vie aux passions les plus basses. Par un tel usage des rapports matrimoniaux, les passions bestiales sont fortifiées. Et, dans la proportion où elles se fortifient, les facultés morales et intellectuelles s'affaiblissent. La spiritualité est vaincue par la sensualité. Le caractère ainsi formé par les parents est transmis aux enfants qui viennent au monde avec un sens moral affaibli et dominé par les passions inférieures. La grossière sensualité des parents est transmise aux enfants. Satan s'efforce d'abaisser l'idéal de la pureté, et d'affaiblir l'empire sur soi-même de ceux qui entrent dans les liens du mariage, parce qu'il sait que là où les passions inférieures montent, les facultés morales baissent et il n'a pas besoin de se mettre en souci au sujet de leur croissance spirituelle. Il sait de science certaine qu'il ne pourra jamais mieux réussir à apposer son sceau aux dieux sur leur progéniture, et qu'il peut ainsi plus facilement agir sur son caractère que sur celui des parents. Si ceux-là même au milieu desquels on serait en droit de s'attendre à trouver quelque chose de mieux, sont ainsi contaminés par le vice, dira-t-on, qui est-ce qui pourra subsister devant le Fils de l'homme quand il reviendra? Ceux-là seulement dont les mains et le cœur sont purs pourront subsister lors de sa venue. Puissais-je trouver des accents assez puissants pour faire comprendre à chacun l'obligation sous laquelle l'homme est placé de conserver son corps dans l'état le plus parfait, afin de rendre à son maître le service qui lui est dû? Mes sœurs chrétiennes, je vous en conjure, au nom du Seigneur, soyez chastes et réservées, et comportez-vous toujours avec pudeur et modestie. Les libertés que permet ce siècle corrompu ne devraient pas nous servir de règle. Les familiarités que le monde tolère ne devraient pas exister parmi ceux qui se préparent en vue de l'immortalité. Si des manières lascives, Le vice et le crime sont à l'ordre du jour parmi ceux qui ne reconnaissent pas l'empire des principes de la parole de Dieu, quelle n'est pas l'importance qu'il y a à ce que ceux qui professent être disciples de Christ, et en rapport intime avec Dieu et les anges, leur montrent une voie plus excellente et plus noble. Combien n'est-il pas important que leur chasteté offre un contraste frappant avec la conduite de ceux qui se laissent dominer par leurs passions. Mes sœurs, évitez même l'apparence du mal. Dans ce siècle de vapeur et d'électricité, vous ne serez en sécurité qu'en vous tenant sur vos gardes. La vertu et la modestie sont rares. J'en appelle à vous comme disciples de Christ, en raison de votre profession exaltée, recherchez avec empressement le précieux joyau de la modestie. Puisque vous nourrissez l'espoir d'être enfin exaltés pour vous joindre à la société pure des anges, et vivre dans une atmosphère où n'existe pas le moindre vestige du péché, recherchez la pureté. Car elle seule pourra supporter l'épreuve sévère du jour de Dieu, et être reçue dans un ciel pur et saint. Vous devez considérer comme de grossières tentatives contre votre dignité de femme, la plus légère insinuation de nature douteuse, la tentative la plus timide d'une familiarité indue, quelle que soit la source d'où elle procède. Si l'auteur de ces attentats occupe une position éminente, s'il est même chargé de paître le troupeau de Dieu, son péché est d'autant plus grand, et devrait faire reculer avec horreur une femme pieuse. La souillure et l'hypocrisie sont d'autant plus haïssables chez celui qui est respecté et honoré comme serviteur de Dieu. Il tient en main les choses saintes, et il se sert de sa haute vocation comme d'un manteau pour recouvrir ses souillures et sa corruption. Craignez une telle familiarité. Tenez pour certain qu'elle est la preuve d'un esprit impur. Si vous vous prêtez à de telles familiarités, vos mots, très ainsi que votre esprit n'est pas pur et chaste comme il devrait l'être, et que le péché a des charmes pour vous. Vous ravalez votre dignité de femme. Nos sœurs devraient cultiver la véritable douceur. Elles peuvent être courtoises. Mais il ne faut pas qu'elles soient hardies, babillardes et arrogantes. Il est agréable à Dieu qu'on soit aimable, tendre, miséricordieux, rempli de support et humble. La femme qui saura garder sa place ne sera pas ennuyée par les attentions obséquieuses du sexe fort. Il existera autour d'elle un cercle de pureté qui la préservera des atteintes de toute liberté indue. La vanité, la mode, le désir des yeux et les convoitises de la chair, sont en rapport intime avec la chute des malheureuses qui se traînent dans la fange du vice. Si elles avaient déraciné ces choses de leur cœur, ces pauvres déchus ne seraient pas si faibles. Si les femmes pouvaient considérer ces choses au point de vue de Dieu, elles auraient une telle horreur de l'impureté qu'elles n'iraient jamais grossir les rangs des victimes des pièges de Satan, quels que soient les instruments dont ils puissent se servir. La femme pieuse dont l'esprit et le cœur sont absorbés par la méditation de thèmes qui fortifient la pureté de la vie et mettent l'âme en communion avec Dieu, cette femme-là ne se laissera pas facilement distraire du sentier de la rectitude et de la vertu. Elle sera armée contre les sophismes de Satan. Elle pourra résister à ses artifices. Je plains de tout mon cœur les jeunes gens et les jeunes filles qui vivent en ce siècle corrompu et dégénéré. Je tremble aussi pour leurs parents. Car ils ne voient pas la responsabilité qui leur incombe d'élever leurs enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Ils consultent la coutume et la mode, et comme les enfants apprennent bientôt à se laisser dominer par ces choses, ils sont des proies faciles de la corruption. Leurs parents négligents et indulgents sont assoupis sur les dangers qui les menacent. Ils sont très rares, les jeunes gens et les jeunes filles qui n'ont pas ressenti les atteintes de la corruption. Des habitudes impures sont pratiquées à un degré alarmant, et ont contribué plus que tout autre péché à la dégénérescence de l'espèce humaine. Les enfants qui s'adonnent aux vices secrets sont souvent faibles, chétifs et de petite stature. Les parents inquiets courent chez le docteur, et administrent des médicaments auxquels le mal résiste, parce que la cause reste. Les victimes de ce vice n'aiment pas le travail. Et quand ils font quelque chose, ils ne tardent pas à se plaindre de fatigue, ils ont mal au dos, mal à la tête et bien d'autres infirmités encore. Tenez pour certains, parents, que si un travail simple et bien réglé épuise vos enfants, il y a autre chose qui énerve leur organisme. Ne montrez pas trop d'empressement à les dispenser du travail physique. Ne vous chargez pas de leur fardeau. Le surmenage est nuisible, mais l'indolence est beaucoup plus redoutable encore. Ne les déchargez pas de leurs responsabilités, et ne faites pas trop attention à leurs plaintes. Ce serait leur rendre un très mauvais service. Ce serait enlever le dernier des remparts qui s'oppose à ce que Satan ait un libre accès à leur esprit affaibli. La fatigue qui accompagne l'accomplissement d'un travail utile tend à diminuer l'inclination au vice. Des mains et un esprit actif ne trouvent pas le temps de prêter l'oreille à chacune des tentations que suggère l'ennemi. Mais des mains et des cerveaux oisifs sont tout prêts à subir son ascendant. Un esprit oisif a la tendance à se nourrir de pensées mauvaises. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Les enfants sont naturellement enclins au mal. Si les parents ne dirigent pas leurs enfants d'une main ferme, s'ils ne tiennent pas constamment devant eux la crainte de Dieu, Satan s'emparera de leurs jeunes esprits pour les corrompre. À mesure que viennent les années, les passions charnelles croissent de leur croissance et se fortifient de leur force, et ils ne trouvent pas de repos jusqu'à ce qu'ils aient fait part de leurs coupables secrets à ceux, avec lesquels ils entrent en rapport. La curiosité est éveillée, et la connaissance du vice est communiquée d'une jeune personne à l'autre, d'un enfant à l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste pour ainsi dire aucun enfant qui l'ignore. Pourquoi les pères et les mères agissent-ils comme s'ils étaient en état de léthargie? Ils ne se doutent pas même que Satan jette une mauvaise semence dans leur famille. Ils sont aussi aveugles, aussi indifférents que possible à l'égard de ces choses. Pourquoi ne s'éveillent-ils pas et ne s'instruisent-ils pas sur ces sujets? Pourquoi n'étudieraient-ils pas les lois de la vie, afin de pouvoir traiter leur corps et celui de leurs enfants, de manière à en assurer la santé? L'empire qu'exerce Satan sur la jeunesse de ce siècle est effrayant. Si l'intelligence de nos enfants n'est pas fermement équilibrée par les principes religieux, ils seront corrompus par les exemples vicieux avec lesquels ils entreront en contact. Le plus grand danger que court la jeunesse provient d'un défaut d'empire sur soi-même. Des parents indulgents n'enseignent pas à leurs enfants le renoncement. Les aliments mêmes qu'ils leur servent irritent leur estomac. Cette irritation se communique au cerveau, et, comme conséquence, les passions sont excitées. On ne saurait trop répéter que tout ce qui est introduit dans l'estomac n'agit pas seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Des aliments grossiers et stimulants chargent le sang d'impureté, excitent le système nerveux, et émoussent trop souvent le sens moral, de sorte que la raison et la conscience sont détrônées par les impulsions sensuelles. Il est difficile, et souvent même presque impossible à celui qui est intempérant d'être patient et d'avoir de l'empire sur lui-même. De là l'importance spéciale qu'il faut attacher à ce que les enfants, dont le caractère n'est pas encore formé, ne prennent que des aliments sains et calmants. C'est par un effet de son amour que notre Père Céleste nous a envoyé la lumière sur la réforme hygiénique, pour nous préserver des maux qui résultent de la satisfaction de l'appétit, sans égard pour la raison. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Les parents le font-ils lorsqu'ils font choix des aliments qui devront paraître sur la table de famille? Ne présentent-ils à leurs enfants que les aliments qui feront le sang le plus pur, qui y introduiront le moins d'impuretés possible, et qui sont les plus propres à entretenir la santé? Ou bien, sans égard à l'avenir de leurs enfants, leur servent-ils des aliments malsains, stimulants et irritants? Rien n'est plus fatal à la moralité d'un enfant que de le décharger de toute responsabilité et de le laisser libre, ou bien de se croiser les bras, ou bien de faire de son temps l'emploi que bon lui semble. L'esprit des enfants est actif, et si l'on ne fait pas en sorte de l'occuper par des choses bonnes et utiles, il s'occupera fatalement de ce qui est mauvais. Il est légitime, il est même nécessaire, d'accorder aux enfants des récréations, mais il faut aussi leur apprendre à travailler. Il faut leur apprendre à consacrer régulièrement une certaine somme de temps déterminée au travail physique, à l'étude, et à la lecture. Veillez à ce qu'ils aient des occupations en rapport avec leur âge, et des livres utiles et intéressants. Satan ne manque pas de former les mains oisives. Laisser grandir les enfants dans l'indolence, c'est un péché. Qu'ils fassent usage de leurs jambes et de leurs muscles, même si cela les fatigue. S'il n'y a pas surmenage, pourquoi la fatigue leur ferait-elle plus de mal qu'à vous? Il y a une grande différence entre la fatigue et l'épuisement. Il faut aux enfants des changements d'occupation, et des repos plus fréquents qu'aux adultes. Mais tout jeunes encore, ils peuvent déjà commencer à travailler, et la pensée qu'ils sont de quelque utilité les rendra heureux. Après un travail sain, ils jouiront d'un doux sommeil, et ils s'éveilleront frais et dispos en vue du travail du jour suivant. Quelques-uns ignorent la nature pécheresse des habitudes impures et leurs conséquences fatales. Une longue pratique du mal a aveuglé leur entendement. L'action des nerfs les plus délicats du cerveau en a été entravée, et il en est résulté l'émoussement du sens moral. La voix de Dieu ne trouve plus qu'un faible écho dans le cœur. Les facultés morales se trouvent singulièrement affaiblies lorsqu'elles doivent entrer en lice avec des coutumes établies. Les pensées impures s'emparent alors de l'imagination, et la tentation devient presque irrésistible. Si l'esprit s'accoutumait à la contemplation de sujets élevés, l'imagination, habituée à contempler des objets purs et saints, serait armée pour résister à la tentation. Absorbée par les thèmes célestes, purs et sacrés, elle ne se laisserait pas distraire par ce qui est bas, corrompu et vil. J'ai quelques connaissances des moyens d'assez, tion de Satan et des succès qu'il obtient. Il a paralysé l'esprit des parents, de telle sorte qu'ils sont lents à croire que leurs enfants soient adonnés à des habitudes vicieuses. Quelques-uns de ces jeunes gens font profession de christianisme, de sorte que leurs parents s'endorment paisiblement sans craindre le danger, alors que leurs enfants se perdent corps et esprit. Satan fait une spécialité en ces derniers jours de s'emparer de l'esprit de la jeunesse pour corrompre les pensées et enflammer les passions. Parce qu'il sait que ce faisant, il peut pousser à des actes impurs, et ainsi avilir toutes les plus nobles facultés de l'intelligence pour les employer en vue de la réalisation de ses desseins. Tous possèdent leur libre arbitre. Tel étant le cas, ils doivent apprendre à imprimer à leurs pensées une bonne direction. Le premier soin de ceux qui désirent se réformer doit être de purifier leur imagination. Nos méditations devraient être élevées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà un champ d'activité immense dans lequel l'esprit peut librement se mouvoir. Si Satan tente de le faire descendre dans la sphère des pensées basses et triviales, ramenez-le dans le domaine permis. Lorsque vous êtes obsédé par des pensées impures, fuyez au trône de la grâce, et demandez l'assistance divine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la volonté de Dieu. Nous renversons les raisonnements et tout rempart qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:2.4-5. Il est rare qu'on enseigne à la jeunesse le renoncement et l'empire sur soi-même. On permet aux jeunes gens et aux jeunes filles de faire ce que bon leur semble jusqu'à ce qu'ils deviennent obstinés et volontaires, et les parents sont alors aux abois, se demandant ce qu'ils doivent faire pour les préserver de la ruine. La doctrine corruptrice qui accourt, suivant laquelle, au point de vue de l'hygiène, les sexes doivent grandir ensemble, a fait son œuvre néfaste. Quand parents et surveillants manifesteront la dixième partie de la ruse que Satan déploie, l'association des sexes sera plus près d'être inoffensive. Comme les choses sont actuellement arrangées, il n'est que trop heureux dans ses efforts pour ensorceler la jeunesse, et l'association des garçons et des filles ne fait qu'aggraver le mal. Des gamins de 10 ans à peine commencent déjà à rechercher les faveurs des jeunes filles de leur âge, et les jeunes filles font preuve d'une telle absence de cette réserve et de cette modestie qu'on aime tellement avoir chez elles qu'on en est navré. Qu'est-ce qui résulte de ces rapports? Tendent-ils à cultiver l'amour de la pureté? Tant s'en faut. Les enfants tombent dans un sentimentalisme maladif qui les pousse à des fréquentations clandestines, et la religion n'exerce sur eux aucune heureuse influence pour les arrêter dans leur mauvaise voie. Que faire pour arrêter cette marée montante du mal? Les parents peuvent beaucoup s'ils le veulent. Si une jeune fille est l'objet d'une familiarité triviale, elle devrait avoir appris à y répondre de manière à enlever à son auteur l'idée de faire une seconde tentative. Quand une jeune fille est fréquemment l'objet des attentions des gamins ou des jeunes gens, il y a chez elle quelque chose qui cloche. Elle a besoin de l'influence et des directions d'une mère sage et ferme. Les jeunes personnes qui sont appelées à entrer en rapport les unes avec les autres peuvent être mutuellement soit en bénédiction, soit en malédiction. Elles peuvent s'édifier et se fortifier les unes les autres, prendre au contact les unes des autres une tenue plus correcte, des dispositions plus aimables, et grandir dans la connaissance. Ou bien, en se laissant aller à la négligence et à l'infidélité, elles peuvent n'exercer qu'une influence démoralisante. Nombre de jeunes gens et de jeunes filles sont avides de lecture. Ils lisent tout ce qui leur tombe sous la main. Les histoires passionnantes dont l'amour fait les frais, et les nudités exposées dans les galeries des arts exercent une influence corruptrice. Elles souillent l'imagination. Suivent les péchés et les crimes qui font descendre des êtres formés à l'image de Dieu au-dessous du niveau de la brute, et les plongent enfin dans la perdition. Évitez les lectures et les tableaux propres à vous inspirer des pensées impures. Apprenez à aimer la méditation de thèmes moraux et intellectuels. N'affaiblissez pas et ne pervertissez pas les nobles facultés de votre esprit par la lecture de beaucoup de livres, même si ces livres contiennent des histoires qui ne soient pas positivement mauvaises. J'ai connu des esprits forts qui ont été déséquilibrés, et presque paralysés par l'intempérance et le défaut d'esprit critique dans la lecture. Il faut de l'habileté et des efforts patients pour former la jeunesse. Les enfants qui sont nés avec l'héritage néfaste de fortes tendances au mal, résultat direct des péchés des parents, ont besoin d'une culture toute spéciale pour développer et fortifier leurs facultés morales et intellectuelles. La responsabilité des parents est certainement lourde. Les tendances au mal doivent être réprimées avec soin. L'esprit doit être stimulé en faveur du bien. Les tentatives que fait l'enfant en vue de vaincre ses tendances naturelles devraient être encouragées. Mais il faut que tout se fasse avec tact, faute de quoi l'objet qu'on se propose sera manqué. Les parents ont bien lieu de s'écrier. Qui est suffisant pour ces choses? Dieu seul est leur force et leur intelligence, or, s'ils ne recourent pas à son assistance et à ses conseils, ils seront incapables d'accomplir leurs tâches. Mais par la prière, par l'étude de la Bible et par un zèle ardent, ils peuvent voir leurs efforts couronnés d'un plein succès, et être récompensés au centuple pour tout leur temps, et tous leurs soucis. La médisance et les soins de la toilette ont souvent absorbé un temps précieux qui eût dû être consacré à la prière pour demander à Dieu sagesse et force en vue de l'accomplissement de ce devoir sacré et important entre tous. Les pères et les mères qui sont sages à salut s'efforceront de procurer à leurs enfants un entourage qui sera favorable à eux, redéveloppement de leur caractère. La source de la sagesse leur est ouverte, et ils peuvent y puiser la connaissance dont ils ont besoin. La Bible, volume si riche en instructions, devrait être leur guide. S'ils élèvent leurs enfants suivant ses préceptes, non seulement ils placent leurs pieds sur le bon chemin, mais ils apprennent aussi à connaître leurs devoirs sacrés. Il ne faut pas permettre à la jeunesse d'apprendre à connaître indistinctement le bien et le mal, avec l'idée que par la suite, le bien prédominera et le mal perdra son influence. Le mal croîtra plus rapidement que le bien. Il est possible que le mal qu'ils ont appris soit extirpé par la suite. Mais qui osera en tenter l'expérience? Le temps est court. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de jeter de la bonne semence dans le cœur des enfants que d'en arracher plus tard les mauvaises herbes. Il est très difficile d'effacer les impressions faites sur de jeunes esprits. Quelle importance ne faut-il donc pas attacher à ce que ces impressions soient bonnes, afin que les facultés malléables de la jeunesse soient inclinées dans la bonne direction. Jetez sur vos enfants le double charme du foyer et de votre société. Soyez ouverts avec eux, et traitez-les avec tendresse et amour. Vous exercerez ainsi une puissante influence sur eux, et ils sauront qu'ils peuvent avoir en vous une confiance illimitée. Ils ne désireront plus alors avec autant d'ardeur la compagnie d'autres jeunes personnes. En raison des maux qui abondent maintenant dans le monde, et des restrictions qu'il est nécessaire d'imposer aux enfants, les parents devraient avoir un double soin de gagner leur cœur et de leur faire voir qu'ils ne désirent pas autre chose que leur bonheur. La jeunesse a la tendance de rechercher la société de jeunes personnes qui lui sont inférieures au double point de vue intellectuel et moral. Quelle jouissance réelle un jeune homme peut-il s'attendre à retirer d'une association volontaire avec des personnes dont les pensées, les sentiments et la conduite sont peu recommandables? Quelques-uns ont un goût perverti et des habitudes dépravées, et tous ceux qui choisissent de tels compagnons courront le danger de suivre leur pernicieux exemple. Ceux qui aspirent à l'immortalité ne doivent se permettre ni une pensée, ni un acte impur. Si Christ est l'objet de notre contemplation, nos pensées n'auront rien de commun avec les sujets qui amènent aux actes impurs. La contemplation des sujets ennoblissants fortifiera l'intelligence. L'esprit qui s'accoutume à courir dans les canaux de la pureté et de la sainteté deviendra sain et vigoureux. S'il s'accoutume au thème spirituel, il suivra naturellement cette direction. Mais jamais les pensées ne seront captivées par les choses célestes sans la foi en Dieu et une confiance humble et entière en celui qui nous donnera une mesure de grâce et de force suffisante pour toute éventualité. Dieu a donné tout ce qui est nécessaire au succès à chacun de ceux qui désirent sérieusement et sincèrement travailler à leur salut dans sa crainte. Par Christ, il y a par-devers Dieu force et grâce que les anges sont chargés d'apporter aux héritiers du salut. Nul n'est tombé si bas, nul n'est si corrompu et si vil qu'il ne puisse encore trouver en Jésus, qui est mort pour lui, force, pureté et justice, s'il délaisse ses péchés, se détourne de l'iniquité, et recherche le Dieu vivant de tout son cœur. Il y en a tant que le moment de les débarrasser de leurs vêtements souillés par le péché, de les revêtir de la robe immaculée de sa justice, et de les inviter à vivre et à ne point mourir. En lui, comme sarment du cep vivant, ils peuvent prospérer. Leurs bourgeons ne sécheront ni ne resteront stériles. S'ils demeurent en lui, ils peuvent tirer de lui leur nourriture, être imbus de son esprit, marcher comme il a marché, vaincre comme il a vaincu, et être élevé à sa droite.